Merci d'écouter RFI. Il est 5h en temps universel, 7h à Rome.
Andréane Mélard
et Grégoire Morelli pour le journal. Bonjour Grégoire.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
La dépouille du pape François va être exposée dans la basilique Saint-Pierre ce matin.
Et les fidèles qui le souhaitent pourront aller se recueillir sur son cercueil pour un dernier hommage. Les funérailles du souverain pontife auront lieu samedi. De nombreux chefs d'État feront le déplacement. Ukrainiens, Américains et Européens se réunissent à Londres aujourd'hui au programme des discussions au sujet d'un cessez-le-feu en Ukraine alors que les combats entre les deux belligérants se poursuivent après une courte trêve lors de Pâques. La CDAO fête cette année ses 50 ans, ce sera le 28 mai précisément. Plusieurs événements auront lieu tout au long de l'année dans l'ensemble des pays membres. Les membres de l'Alliance des États du Sahel qui ont quitté l'organisation ont été officiellement conviés, mais aucune réponse de leur part.
Le pape François entamera son dernier voyage samedi lors de funérailles en présence d'un très grand nombre de dirigeants étrangers.
Mais d'ici là, les fidèles pourront se recueillir devant la dépouille du souverain pontife qui sera exposée au public à partir de ce matin dans la basilique Saint-Pierre. Et ils sont nombreux à espérer de voir le corps du pape François avant son inhumation. Écoutez le reportage sur place avec nos envoyés spéciaux Jadel Koudri et Daniel Valo.
Madeleine est prête à patienter de longues heures sur la place Saint-Pierre pour accéder à la basilique et approcher la dépouille de François. Cette étudiante américaine veut rendre à tout prix ce dernier hommage au pape décédé.
C'est très important pour moi car j'ai été élevée en tant que catholique. J'ai été baptisée, j'ai fait ma communion et c'était un très bon pape.
Et il faudra s'armer de patience, car c'est une foule immense qui est attendue ici sur la place Saint-Pierre. De la patience, Gilles n'en a pas beaucoup, mais ce Québécois compte sur la chance pour accéder malgré tout à la basilique.
C'est un défi presque impossible, mais on ne sait jamais le hasard d'une foule qui se passe. C'est par pays, on peut peut-être se faufiler et aller lui dire adieu ou merci.
Sa femme Bianca patientera, elle, le temps qu'il faudra, pour apercevoir quelques instants le cercueil papal.
Ça va me consoler un peu et de partager cette peine avec tout le monde, le rassemblement. C'est quelque chose de très émouvant. Oui, je vais faire une prière, je vais me recueillir en silence, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le monde entier. Nous allons honorer sa mémoire.
Cet hommage ultime des fidèles doit durer jusqu'à vendredi soir. Jadel Koudri, Daniel Valo, Rome RFI.
La cérémonie accompagnant le cercueil du pape doit commencer à 9h, heure locale. Le pape François, qui a marqué son pontificat en dénonçant notamment les conflits en cours sur la planète, comme en République démocratique du Congo ou dans la bande de Gaza, mais aussi en Ukraine, justement, la guerre en Ukraine et les moyens d'arriver à un cessez-le-feu sont au menu d'une réunion au Royaume-Uni aujourd'hui. Des représentants américains et européens ainsi qu'une délégation ukrainienne sont attendus à Londres. Mais dans un contexte de nouvelles frappes russes en Ukraine, rien ne laisse espérer une avancée concrète des négociations, Julien Chavanne.
Cela ressemble à un jour sans fin. L'Ukraine se dit prête à un cessez-le-feu sans condition. La Russie tergiverse, les combats continuent et au milieu, les États-Unis alternent méthode couée et coup de menton. Aujourd'hui, à Londres, l'influent chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, tentera une fois de plus d'amener les conseillers de Donald Trump à pousser Vladimir Poutine à faire des concessions. La fausse trêve annoncée par Moscou pour les fêtes de Pâques jouera peut-être pour lui. Mais avant même ce rendez-vous, le Kremlin a douché tout optimisme sur des négociations de paix. Le règlement du conflit est un sujet tellement complexe qu'il vaut mieux ne pas fixer de délai serré, tempère Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine. Si Donald Trump espérait encore en début de semaine un accord dans les prochains jours, ce ne sera pas pour tout de suite. La composition des délégations présentes est un indice. Aucun ministre français ou américain de haut niveau ne fera le déplacement à Londres. Et Steve Witkoff, l'envoyé spécial de la Maison-Blanche, est attendu de son côté à Moscou.
Aux États-Unis, un juge a ordonné hier que l'administration Trump restaure l'antenne de la radio Voice of America.
Ah oui, elle qui a cessé d'émettre depuis le 15 mars dernier. Ce juge exige aussi de réembaucher tous les employés mis à pied. Et même si la Maison-Blanche fera certainement appel de cette décision, c'est le dernier point du pouvoir judiciaire emporté contre l'exécutif ces derniers jours. De nombreux juges stoppent en effet les projets que Donald Trump décide par décret présidentiel. Les explications de notre correspondante aux États-Unis, Karine Otten.
L'ordre de laisser la radio Voice of America reprendre la programmation n'est que le dernier exemple du travail des juges qui détricotent les actions imposées par Donald Trump par décret présidentiel. L'administration Trump voulait supprimer le marquage X sur les passeports des personnes non binaires. C'est ce qu'avait affirmé Donald Trump le jour de son investiture. Eh bien, une juge a interdit à l'administration fédérale d'appliquer le décret présidentiel. Des plaignants ont targué qu'ils avaient le droit à des documents d'identité les plus précis et corrects possible. Quelques jours plus tôt, c'est une autre juge qui a ordonné le déblocage des fonds alloués à l'environnement, au climat ou aux infrastructures que Donald Trump avait bloqué en janvier. Sur le papier, l'administration Trump doit faire marche arrière. Même conclusion pour l'aide américaine à l'étranger. Elle est censée reprendre au plus vite. Enfin, dans le cas de licenciement des agents fédéraux, eh bien, les parcs nationaux ont finalement eu gain de cause et prévoient de réembaucher 7700 agents saisonniers cet été. Karine Hutton, New York, RFI.
Donald Trump, lui, est revenu sur ses propos très durs vis-à-vis du président de la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis, après avoir estimé la semaine dernière que Jérôme Powell devait sans doute quitter prochainement son poste, faisant au passage tanguer les marchés financiers. Le président républicain assure désormais ne pas avoir l'intention de le renvoyer.
Dans un peu plus d'un mois, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest fêtera ses 50 ans.
L'anniversaire de l'organisation sous-régionale créée le 28 mai 1975 sera notamment marqué par une série d'événements tout au long de l'année dans l'ensemble de ses pays membres. C'est ce qui a été annoncé ce mardi à Accra, au Ghana, lors du lancement officiel des célébrations. Un événement auquel ont été officiellement conviés les membres de l'Alliance des États du Sahel. Invitation à laquelle les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger n'ont pas souhaité répondre. Correspondance depuis Accra avec Victor Cariou.
Le Ghana se tient prêt à servir de pont pour relancer la fabrique de l'unité ouest-africaine.
Le message du président du Ghana, John Dramani Mahama, est clair. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest doit tendre la main vers l'Alliance des États du Sahel. Ce, alors que ni le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'ont répondu à l'invitation formulée officiellement par le chef d'État. Un refus, selon une source proche de la présidence, pour des raisons de délai trop court et d'agenda trop chargé. Qu'importe, pour le dirigeant ghanéen, seule la diplomatie peut réellement fonctionner.
Leur récente décision de quitter la CDAO est une évolution regrettable. Cependant, nous ne devons pas répondre en nous isolant ou en les récriminant, mais avec un dialogue compréhensif et la volonté d'écouter.
Un changement de cap nécessaire, estime Omar Touré, président de la commission de la CDAO, notamment pour combattre le terrorisme.
La menace terroriste ne connaît pas de frontières. Cela rend donc la collaboration sécuritaire impérative au sein de la région. C'est pour cela que je salue les efforts œuvrant à la réconciliation entre la CDAO et l'Alliance des États du Sahel.
Le futur des relations avec l'AES est également au programme d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CDAO. Celle-ci doit s'achever ce mercredi 23 avril. Victor Cariou, Accra, RFI.
En Côte d'Ivoire, le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné hier la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. Lui qui, la semaine dernière, avait été désigné candidat à la présidentielle d'octobre par son parti, le PDCI. La justice a en effet estimé qu'il n'était pas ivoirien au moment de son inscription sur la liste électorale. Tidjane Thiam avait pourtant renoncé à sa nationalité française dans le but de se présenter à la magistrature suprême. Il dit refuser fermement cette décision en assurant qu'il n'y a, je cite, ni de plan B ni de plan C. Il reste déterminé à être le candidat de son parti.
Et ce sujet sera au cœur de votre émission Appel sur l'actualité ce matin. Rendez-vous à 10h10, hors de Paris avec Namoury Dosso. Vos questions, vos réactions au 33 9 693 70.
Et puis, après s'être rendu à Mayotte et à La Réunion en début de semaine, Emmanuel Macron doit atterrir dans les prochaines heures à Madagascar. Il y rencontrera notamment son homologue. Objectif, renforcer les liens bilatéraux entre les deux pays, ainsi que la place de la France dans l'océan Indien, malgré des contentieux persistants hérités de la colonisation. Il s'agit de la première visite d'un président français dans ce pays depuis Jacques Chirac en 2005.
Deux mois jour pour jour après les élections générales, l'Allemagne attend son nouveau gouvernement.
Le chrétien démocrate Friedrich Merz doit succéder dans deux semaines à Olaf Scholz, qui gère toujours les affaires courantes. Mais la popularité du futur chancelier a sensiblement baissé et un sondage hier donne un résultat jamais vu à l'extrême droite, Pascal Thibault.
L'Alternative pour l'Allemagne a atteint un score historique il y a deux mois avec 20% des voix. Dans un sondage publié hier, l'AfD est créditée de 26% et devance les chrétiens démocrates de Friedrich Merz. C'est un coup de tonnerre politique avant même que le nouveau chancelier ne soit élu. La mise en place attendue d'une coalition entre les conservateurs et les sociaux-démocrates ne suscite aucun état de grâce. La montée de l'extrême droite s'explique par la déception d'électeurs qui ont l'impression que Friedrich Merz ne tient pas ses engagements ou les remet en cause. Le président de la CDU avait promis une politique migratoire des plus dures et doit composer avec ses alliés sociaux-démocrates. Le programme massif d'investissement financé par de nouvelles dettes contredit la traditionnelle orthodoxie budgétaire des conservateurs. Un Allemand sur cinq a confiance en Friedrich Merz. 17% des sondés trouvent le futur chancelier sympathique. Une majorité ne pense pas qu'il fera mieux qu'Olaf Scholz. Et pourtant, le chef du gouvernement sortant battait des records d'impopularité. Après son élection prévue le 6 mai, Friedrich Merz devra donc très vite, avec des premières mesures, prouver aux Allemands que leur scepticisme n'est pas fondé. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Tout autre chose pour clore ce journal, puisqu'on termine en musique avec le nouvel album du Marseillais Jon Onge. Une musique d'inspiration néo-soul, empreinte de funk et d'électro. Particulièrement bienvenue juste avant l'été, Olivier Roger.
Ancien batteur, ancien créateur de festival, Jon Onge a eu la bonne idée en 2019 de prendre le micro et d'y susurrer ses premières mélodies. Sensualité envoûtante, charme vintage d'une soul matinée de funk, vigueur et modernité des rythmes électro, tout est parfait dans ce cocktail qui annonce un été torride pour le Marseillais d'adoption, devenu en un temps record le symbole du Massilia Lover. Jon Onge est souvent comparé à Prince ou à Lenny Kravitz. Il possède un groove inné et une inventivité qui ont fait dresser l'oreille d'un connaisseur, l'immense producteur américain Timbaland. Timbaland a adoubé le Frenchie en gratifiant sa production d'un 20 sur 20 pour sa créativité. Cette créativité explose sur Tequibama, son deuxième album. Jon Onge proclame son amour de la soul tout en proposant une esthétique moderne. Elle est à l'œuvre sur certaines collaborations comme ce titre en compagnie du rappeur californien Charlix et du Marseillais Supa Dupa. Sitting on the chair, my recording studio, amigo. You're shooting on your own radio, and never leave it to you here. That one on your phone, y'all. Think back whenever you feel bad. Now you gotta take back all the things that you're proud of. Think about no matter what you've done, you'd better let my song run, y'all. Tell me what you think of me. I tell you what you want about me. Dather like a shit hit the bottom. Dather like a shit hit the bottom. Tell me what you think of me. I tell you what you.
Olivier Roger pour cette fin d'édition et le nouvel album de Jon Onge. Ce sera notre choix musical dans un peu moins de 2 heures sur RFI.
Et Olivier Roger viendra en studio nous en parler en musique évidemment. Merci à vous Grégoire Morelli, on vous retrouve à 9h tout à l'heure. Bonjour à vous qui nous écoutez, il est 7h13 à Paris, bienvenue RFI Matin à vos côtés pour les 3 prochaines heures à suivre. Chronique, invité, reportage. Ce matin nous serons bien sûr à Rome, à la Basilique Saint-Pierre qui s'apprête à accueillir un moment historique, l'arrivée de la dépouille du pape François. Notre envoyé spécial sur place nous fera vivre ce moment. Rendez-vous tout à l'heure à 9h. Les hommages, les prières pour le pape François qui continue bien sûr d'affluer à travers le monde. Aujourd'hui, une grande messe est prévue à l'église du Saint-Sépulcre et beaucoup l'attendent avec impatience, comme ce fidèle rencontré par Amira Suilem.
Beaucoup de personnes vont venir à cette messe, des personnes de toutes les religions. Il y aura des Israéliens, mais aussi des Palestiniens.
Reportage à écouter dans le journal de 8h. Les obsèques du pape se tiendront samedi. Emmanuel Macron y sera, même si pour l'heure le président français poursuit sa tournée dans l'océan Indien direction Madagascar ce mercredi. On va vous en parler dans nos différentes éditions. On parle aussi ce matin de la Côte d'Ivoire, alors que Tidiane Thiam, pourtant candidat désigné du PDCI à la présidentielle, vient d'être radié de la liste électorale. On y revient dans le prochain journal Afrique et vous en parlez aussi avec Namouri Dossou tout à l'heure dans Appel sur l'actualité, rendez-vous à 10h10, heure de Paris, RFI également au programme. Ce matin, les États-Unis, la politique de Donald Trump et toutes ses conséquences. On va en parler avec notre invité à 8h20, dont aujourd'hui l'économie également. Et puis tout de suite dans notre rendez-vous, la Une en Asie. « pour le ministre américain des Finances, le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine devrait connaître une désescalade, et cela alors que Donald Trump a reconnu hier face à la presse que ses surtaxes de 145% qu'il a lui-même décidé contre Pékin étaient très élevées et qu'elles allaient baisser de façon substantielle. Nouveau revirement donc dans le volet commercial des relations sino-américaines, mais qui n'a rien de rassurant pour toute la région Asie-Pacifique soumise au soubresaut de l'administration américaine. Et cela dépasse, vous allez le voir, le seul sujet économique. Bonjour Cléa Broadhurst.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Correspondante d'RFI à Pékin, Cléa, en matière de défense par exemple, alors que tous ces pays s'interrogent sur le fait de pouvoir encore compter ou non sur Washington, la réorganisation a d'ores et déjà commencé.
Et oui, et le retour de Trump provoque un véritable séisme. L'Australie veut porter ses dépenses militaires à 2,4% du PIB d'ici 2028. Le Japon vise 2% d'ici 2027. Les Philippines, elles, renforcent leur coopération avec Washington et modernisent leur armée. Et la Chine, elle, voit ici une opportunité stratégique. Elle hausse de 7,2% son budget défense. Elle a une diplomatie active dans la région et il y a une pression accrue autour de Taïwan. Et sur l'île, d'ailleurs, on se prépare à une possible confrontation, mais sans pouvoir atteindre les niveaux de dépenses qui sont exigés par Donald Trump. Quant au Vietnam, il tente de ménager Pékin comme Washington, malgré des droits de douane américains lourds. Et l'avenir de l'engagement sécuritaire de la Corée du Sud reste confus, alors que la Corée du Nord multiplie les provocations. Bref, l'Asie se réarme, redéfinit ses alliances et se prépare à l'incertitude.
Et Cléa, alors pourquoi ces changements sont-ils si importants ?
Eh bien, parce qu'il marque peut-être la fin de l'ordre régional dominé par les États-Unis. Trump remet en cause des alliances traditionnelles, ce qui pousse même des partenaires fidèles comme le Japon ou la Corée du Sud à envisager plus d'autonomie stratégique. La militarisation s'accélère, on le disait, et Pékin en profite pour s'imposer comme puissance dominante. Gestes commerciaux, renforcement militaire, offensive diplomatique. Et cela rend aussi la région plus instable. Les tensions territoriales se multiplient, la méfiance grandit, et les institutions régionales comme l'ASEAN peine à contenir les rivalités et des acteurs extérieurs comme la Russie cherchent à s'y engouffrer. Et enfin, on assiste à un possible réalignement des puissances comme l'Inde, l'Australie ou le Japon pour former de nouvelles coalitions en dehors du cadre américain.
Cléa, quelles conséquences pour la Chine ?
Eh bien, pour Pékin, c'est à la fois une chance et un risque. La désorganisation américaine lui permet de combler le vide, de se poser en alternative fiable et de pousser ses projets économiques comme les nouvelles routes de la soie. Mais la montée en puissance militaire chinoise inquiète. Des pays comme le Japon ou le Vietnam réarment, on le disait, la diplomatie régionale devient plus tendue et la Chine est de plus en plus perçue comme coercitive. Et trop d'audace pourrait se retourner contre elle. La Chine risque d'unir contre elle des États qui, jusqu'ici, hésitaient à prendre parti. Alors, c'est un moment charnière pour la Chine comme pour l'ensemble de l'Asie. Le retour de Trump pourrait rebattre durablement les cartes du pouvoir régional, Andréane.
Merci Cléa. Cléa Broadhurst, envoyée spéciale permanente d'RFI à Pékin pour notre rendez-vous. La une en Asie, autre conséquence de la guerre commerciale lancée par les États-Unis sur les médicaments consommés par les Américains, mais largement produits en Inde. On en parle ce matin dans Aujourd'hui l'économie. Ce sera tout à l'heure à 8h15 avec Stéphane Genest. Donald Trump qui a dépassé cette semaine là-bas des 100 jours de présidence, 100 jours passés depuis son investiture en janvier dernier, depuis son retour à la présidence américaine sur le plan extérieur mais aussi intérieur. Ces très nombreuses décisions ont provoqué d'importants bouleversements. Sur RFI, on s'intéresse ce matin tout particulièrement au domaine de la science, très touché par les orientations prises par la nouvelle administration américaine. Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Andréane.
Votre invitée ce matin est la professeure Bana Jabri. Elle a co-signé récemment une tribune dans le journal français Le Monde pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'attaque, d'entrave au domaine scientifique aux États-Unis.
Et la liste est longue avec des milliers de chercheurs licenciés des agences fédérales, d'autres surveillés à la Orwell, d'autres encore obligés de masquer certains mots de leurs projets de recherche pour échapper à la censure. Et il est là le problème pour Bana Jabri. Céder, impensable. Elle préfère lutter, alerter, dire à quel point sous ces entraves, ce n'est pas seulement du théorique, c'est du pratique, du très pratique. La santé des gens va en pâtir, alors il faut sauver le soldat science. Et pourquoi pas les accueillir, ces scientifiques, pour qu'ils puissent poursuivre leurs recherches dans des pays où ils seront libres de le faire, des pays où la démocratie ne serait pas malade. On en parlera avec Bana Jabri.
Merci Gaëtan Plenel, rendez-vous 6h20, temps universel pour cet entretien. En France, le gouvernement a décidé cette année de faire de la santé mentale une grande cause nationale. Il faut dire que le sujet est de moins en moins tabou, même s'il l'est encore, grâce à la prise de parole de plus en plus de personnalités sur le sujet. À l'image récemment du journaliste de nos confrères de France Inter, Nicolas Demorand, qui a révélé à l'antenne qu'il était bipolaire. Alors est-ce que ce type de prise de parole peut aider ? Pour le savoir, Laurence Théo s'est rendue à la Maison Perchée, une association qui accompagne les jeunes adultes vivant avec un trouble psychique et leurs proches. On commence par réécouter Nicolas Demorand.
Comme des centaines de milliers de Français, je suis bipolaire. Si je me suis tu si longtemps, c'est parce que la maladie mentale fait peur, parce que la maladie mentale reste une maladie honteuse et que oui, j'avais honte. Mais j'ai décidé maintenant d'en faire un combat.
La honte dont parle Nicolas Demorand, Maxime Pérez-Zitvogel la connaît bien. Âgé aujourd'hui de 32 ans, il a été diagnostiqué bipolaire avec phase d'euphorie et période de dépression il y a près de 10 ans.
Mais j'ai pas eu honte, j'ai eu très honte au départ. En fait, vous vous rendez compte de tous les délires que vous avez eus et de tout l'impact que ça a pu avoir sur votre entourage, sur vos amis. Moi, j'ai dû arrêter mes études à cause de ça. Enfin, c'est très très dur de se retrouver après seul face à tout ça et se dire mais pourquoi en fait ?
Alors le fait que des journalistes, comédiens, artistes, sportifs témoignent au grand jour de leur maladie mentale est pour lui salutaire.
8 ans, j'attendais ce moment-là qu'une star prenne la parole sur le sujet pour que voilà, ça amène la discussion. Enfin, moi, je sais que quand j'étais à l'hôpital, le fait de savoir que des gens comme Van Gogh, Baudelaire et compagnie l'étaient, ça m'a rassuré et ça m'a permis de dire que voilà, ils avaient quand même du talent. Disons que ça a été quelque chose qui m'a rassuré et qui m'a permis de m'ancrer et de me dire voilà, je peux quand même vivre avec cette maladie.
La maladie mentale n'est pas une maladie comme les autres, car elle est stigmatisante et comme l'explique le psychiatre Thierry Nagemann, c'est difficile de vivre avec cette pathologie.
Il y a à peu près 15% des personnes qui sont diagnostiquées bipolaires qui vont décéder par suicide et qui vont avoir des trajectoires extrêmement impactées par la maladie en termes de divorce beaucoup plus fréquents que dans la population générale, en termes de perte d'emploi. Donc ce sont des trajectoires de vie qui sont accidentées.
Le psychiatre encourage alors ces témoignages de gens connus très bénéfique pour les patients, mais il avertit.
C'est très bien que les personnalités publiques fassent cette sorte de coming out, je ne sais pas comment il faut l'appeler, en tout cas, puissent parler le plus simplement possible et de façon solidaire de leurs difficultés personnelles et de leurs maladies, mais tout le monde n'est pas une personnalité publique. Et Nicolas Demorand, ou Yannick Noah, ou Manodou et d'autres ont peut-être la possibilité de trouver plus facilement que d'autres une aide psychiatrique, un soutien, mais ce n'est pas le cas de monsieur et madame tout le monde. Et je crois que c'est important d'en profiter pour dire que voilà, la psychiatrie traverse une crise extrêmement profonde.
Un questionnement d'autant plus pertinent que la santé mentale avait été décrétée grande cause nationale en 2025.
Reportage de Laurence Théo. Hier, 22 avril, c'était la journée de la Terre, mais avec la mort du pape François, l'info a été quelque peu occultée. Alors, on y revient aujourd'hui avec vous, Florent Guignard, bonjour.
Bonjour.
La première journée de la Terre qui a eu lieu en 1970. Alors, notre question d'environnement ce matin, pourquoi l'écologie politique est-elle née dans les années 70?
Alors, c'est vrai que cette première journée de la Terre, le 22 avril 1970, organisée uniquement aux États-Unis, marque les esprits. Des millions d'Américains participent à des manifestations. Et la chaîne de télé CBS diffuse une émission spéciale.
This is a CBS News special. Earth Day. A question of survival.
Une question de survie.
Et le contexte est particulier.
Oui, les États-Unis viennent de subir plusieurs marées noires. Comme nous le rappelle François Jarige, il est historien de l'environnement.
Une marée noire, là c'est spectaculaire. Là où les pollutions étaient invisibles, là il n'y a pas de débat. Les oiseaux sont mazoutés. Les habitants des littoraux voient les nappes de pétrole sur les côtes. Il y a une forme d'immédiateté, d'évidence, de la nuisance.
C'est la fin des 30 Glorieuses, mais on ne le sait pas encore. Et un an avant, le premier choc pétrolier, un rapport choc, est publié en 1972 par le Club de Rome. Les limites de la croissance, le constat est simple, Andréane, les ressources de la planète s'épuisent. Écoutez ce qu'en disait alors le fondateur du Club de Rome, Aurelio Peccei.
Il faut prendre conscience des nouvelles réalités. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, alors je pense que les souffrances humaines seront presque infinies.
Voilà, c'est l'apocalypse qui vient et c'est un carton, 12 millions d'exemplaires vendus en 37 langues, François Jarige.
Oui, il a vraiment un impact planétaire. C'est-à-dire que quand vous ouvrez les quotidiens et les journaux de l'époque, les alertes du Club Mundo sont largement reprises. Il rompt avec la confiance antérieure dans une sorte d'expansion continue et infinie. Ce rapport frappe les contemporains parce qu'il donne du sens à ce qui arrive à l'époque, hein, et notamment la dépendance croissante à l'égard des énergies fossiles.
Il y a des livres, Florent, il y a aussi de la musique.
Mais par exemple, un tube de Marvin Gaye. Merci, merci, Mills. Et écologie, c'est le titre numéro 1 aux États-Unis à l'été 71. Oil wasted on the oceans and upon high seas, fish full of mercury. Pitié par pitié, une chanson sur la pollution des mers notamment.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'avant 1970, on s'en fichait de l'environnement ?
Non, la conscience écologique ne date pas d'hier ni d'avant-hier. Le mot écologie, par exemple, il est né à la fin du 19e siècle, avec la révolution industrielle. Et à la même époque, un scientifique suédois fait le lien, déjà, entre CO2 et température planétaire.
Mais alors, qu'est-ce qui change au début des années 70 ?
Bien, c'est la fin de l'âge d'or économique, et dans le sillage de mai 68, les lignes bougent en Occident, François Jarige.
On sort d'une période, d'une génération, où la question avait été un peu invisibilisée par l'expansion économique, l'enrichissement généralisé. Or, précisément, mai 68 ouvre l'émergence de ce qu'on va appeler à l'époque les nouveaux mouvements sociaux, notamment les questions de féminisme, de genre, et puis la question écologique. Le début des années 70, c'est le moment d'apparition des grandes ONG environnementales. Tout ça fait qu'on va assister à l'entrée en politique de l'écologie.
Et en France, par exemple, c'est la première candidature écologiste à la présidentielle de 1974. René Dumont qui disait « La voiture, ça tue, ça pue et ça rend con ». Bon, il n'a fait que 1,3% des voix.
C'est déjà ça. Merci Florent Guignard. On continue en musique sur RFI. Dans quelques minutes, l'information africaine suivie du journal des sports. D'abord, M comme ça, le titre choisi par nos programmateurs ce matin, par la gabonaise Emma et le jeune rappeur français Culture.
Ah mon bébé il aime comme ça. Rien qu'il m'attire il le ressentait. Aux attaques il ne répond pas. Non.
Ils ont parlé dans la cité. Donc on a quitté la cité. Encore nous, sujet de la cité. Ouais. Ils ne savent que nous descendre. Mais ici la personne ne descendra. C'est monté oui c'est descendu. Ouais.
Je t'aime, les autres ne t'aimeront pas comme ça. Maintenant que je t'ai trouvé, je mettrai cadenas.
Je t'ai réveillé sans hésiter. Avant toi, j'étais abîmé. Trop parler, ça peut fatiguer. Nous, on n'est pas comme ça. Ils ne savent que nous descendre. Mais dis-leur que personne ne descendra. Moi, c'est monter, c'est descendre.
Oh mon bébé, même comme ça. Je vois que mon nom c'est sensation. Mon bébé, bébé, même comme ça.
Ils ont parlé dans la cité. Donc on a quitté la cité. Encore nous, sujet de la cité.
Comme ça, la cité par Emma et Culture, c'est sur notre playlist RFI. Ce mois-ci, vous pouvez encore en profiter pendant une petite semaine de cette playlist. Elle est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Aujourd'hui, la présence de substances dans les eaux usées liées à la consommation de médicaments fait l'objet de surveillance. Comment évaluer les risques sur l'environnement ? Demain, le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde selon l'OMS. Le docteur Tembo Batili, oncologue, répond à vos questions.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
De Aulnay-sous-Bois à l'Académie française, de la banlieue au Pont des Arts face à la coupole pour la cérémonie des JO, c'est le parcours de Aya Nakamura, une chanteuse qui réinvente la langue de Molière de A à Z. Ismaël Mereghetti lui consacre un dictionnaire.
Les langues s'expriment de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.